Alors, très chers amis, aujourd'hui nous allons parler de ce comment est-ce qu'on se renouvelle. C'est ça la demande de notre ami David Altar. Et à ce propos, je voudrais donc, je comprends que cette demande qui s'agit du renouvellement, c'est sur l'arrière-plan des événements tragiques que nous avons connus ces derniers temps. Et donc, nous allons qu'il y ait un peu plus de lumière. Et nous allons donc étudier c'est une étude en vérité, c'est une étude à travers un livre que vous connaissez probablement, Oroth, mais ça ne sera pas dans le cadre de notre étude habituelle. Je voudrais tout d'abord rappeler un texte dans la page même d'Aleth. Ceux qui ont le livre de Oroth, ça pourra leur être utile. Cela fait partie. Attendez, non, c'est pas là. Ah là là, je me suis trompé. Je me suis trompé, c'est dans Oroth-Atéria. Et ça, c'est la page P d'Aleth. C'est dans Oroth-Atria, au paragraphe même d'Aleth. Je vais vous lire ce texte. Nous allons l'étudier et nous allons voir s'il est pertinent par rapport aux événements que nous connaissons. Mekoubalim à nous avons pour tradition, nous dit le Rav Kook, Shemerida ruchanit tiyeh be'eretz Israël ou be'Israël, qu'il y aura une révolte spirituelle, c'est-à-dire une révolte contre le spirituel, en Eretz Israël et dans le peuple d'Israël. À l'époque où commencera la résurrection du peuple à se manifester. C'est-à-dire, bon, ce que ça suppose, c'est que pour le Rav, le peuple d'Israël est un peuple mort. Il est mort depuis la sortie en exil. Et donc la sortie de l'exil est une résurrection. Nous ressuscitons. Et au moment où commence la résurrection, c'est là qu'il y a une révolte contre la spiritualité et de manière générale contre la tradition d'Israël. C'est le phénomène qu'on appelle la chilonout. Et ce que dit le Rav Kook, c'est que la réussite de cette résurrection entraîne justement un problème. Vous savez, il y a dans la paracha de Ha'azinu, dans le cantique que Moshe récite avant sa mort, il dit Vaishman Yeshurun Vaivat. Yeshurun s'est engraissé, il a rejeté, Shamanta Avita Kassita, tu t'es engraissé, tu as épaissi, tu t'es recouvert de ta graisse, Vaït. Tosh Eloah Asahu, et il abandonne le Dieu qui l'a formé, Vaenabel Tsurishoato, et il méprise le rocher de sa délivrance. Alors, c'est quoi ce verset? Le Midrash nous dit, ce sont les trois générations du début de la résurrection, du début des temps messianiques. Hashalva hagashmit chetavo lechelek mi'ha'uma. La tranquillité matérielle qui sera le lot d'une partie du peuple, Asher Yedamu Shekvar Baou Lematratam Kula, qui s'imagineront être arrivés à l'aboutissement de tout leur but. C'est-à-dire, ça suppose qu'une partie de la société, au temps de la résurrection nationale, s'embourgeoise, s'enrichit, arrive à une tranquillité matérielle qui lui fait imaginer qu'il est arrivé au but final. Taktin et Taneshama va amoindrir l'âme. Veyavo yamim asher tomar en bahem chefetz. Et viendront des jours où on se dira qu'il n'y a plus rien à désirer. C'est-à-dire, vous connaissez cette formule comme quoi l'État d'Israël pourrait être la Suisse du Proche-Orient, un lieu de tranquillité où tout se passe pour le mieux, il y a grande satisfaction au niveau des désirs matériels. Les seuls qui dérangent sont éventuellement ces quelques jeunes des collines qui, eux, pensent qu'il y a encore quelque chose à faire. Hashi'ifa li idéalim nissaim kdoshim terdal. L'aspiration à tes idéaux élevés et saints cessera. Umimeila yereda ruach viishka, et ça entraînera nécessairement une chute de l'esprit. Alors, jusque-là, donc, c'est des situations que nous pouvons connaître. Cette idée que la société israélienne n'a rien à chercher en dehors de sa jouissance matérielle, de l'élévation, de l'agrandissement du produit national brut. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors on peut dire, bon, ben, il faut essayer peut-être de donner des cours de Torah, d'agrandir Orot Vekelim, etc. Mais ce que dit ici le Rav, c'est autre chose. Adasher yavo sa'ar ve'yahafor ma'apecha. Jusqu'à ce qu'arrive une tempête et qu'elle entraîne un bouleversement. Alors, est-ce que ça ne serait pas ce que nous sommes en train de vivre? Il y a eu une tempête et cette tempête a bouleversé la société. Et on ne sait pas encore si, par hasard, nous ne sommes pas à la veille d'une plus grande tornade. Veirae az be'alil, et c'est alors qu'il sera clair qui chosen Israël hu be kodesh olamim, que la puissance d'Israël dépend de la sainteté éternelle, be'or Hashem v'torato, de la lumière de Dieu et de sa Torah, be'cheshek ha'ora ruchanit, dans l'aspiration à la lumière spirituelle, Shehi Hagvura Hagmura Menatsachat et Kol Olamim V'chol Chochteem, qui elle est la vaillance absolue, qui entraîne la victoire sur tous les mondes et sur toutes leurs forces. Alors ce que dit le Rav, c'est que viendra un temps où il y aura une telle catastrophe qu'il sera clair pour tout le monde que la puissance d'Israël est attirée dans ses sources spirituelles, donc dans la Torah, la foi en Dieu et tout ce que cela implique. Effectivement, nous voyons que depuis qu'a commencé la guerre, déjà depuis plus de 2 ans, il y a un renforcement de l'identité. Alors, ça voudrait donc dire qu'il y a des systèmes, il y a des processus qui sont prévus à l'avance, qui, d'une part, nécessite une sorte de chute spirituelle et morale qui entraîne un matérialisme grossier et que ce matérialisme est brusquement renversé par une tempête. Alors maintenant, pourquoi c'est comme ça? On pourrait se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas arranger les choses de telle manière qu'il ne soit pas nécessaire à la fois d'avoir une chute et également une ascension, une tornade qui finalement renverse tout? Alors, ce que dit le Rav après, Hatzorech Limridazo, la nécessité de cette révolte contre la religion, cette révolte contre les mitzvot, Ianetia le tzad achomriyut, c'est la tendance du côté de la matérialité, Shemuchachat liyivaled bichlalut ha'uma betzurat akifa, qui doit nécessairement naître dans la nation, dans son ensemble, de manière forte, Achar asher avru pirkei shanim rabot, parce que se sont passées de nombreuses années, shenehefsu legamrei miklal haouma, hatzorer vaefsharut lihitaskut chomrit, quand a disparu de l'ensemble de la nation la nécessité et la possibilité de s'occuper du matériel. C'est-à-dire, pour construire un État, on a besoin de ce qu'on appelle Hamoro shel Mashiach, Hamoro, l'âne du Messie, ça veut dire quoi l'âne? L'âne veut dire également la tendance au matériel. Mais les ânes, dans l'Antiquité, c'était le véhicule commun. C'est-à-dire tout le monde, au lieu d'avoir une voiture, avait un âne. Et l'âne du Messie, ce sont les moyens qui permettent le développement du processus messianique. Et donc il faut pour cela un État. Pour faire un État, on a besoin d'une armée, on a besoin d'une économie, on a besoin de toute une série d'investissements dans le matériel. Or, le peuple juif, pendant de très longues années, pendant plusieurs siècles, est devenu un peuple entièrement et presque exclusivement spirituel. Et donc, pour revenir au matériel, il est nécessaire de se débarrasser provisoirement de la fidélité à la tradition spirituelle. Et donc, ça veut dire, pour le Rav Kook, le fait qu'il y ait un renforcement de ce qu'on appelle la chilonout, la laïcité, ne doit pas nous inquiéter. Ça fait partie des nécessités de l'enfance. C'est comme un enfant, quand un enfant vient de naître, on ne lui demande pas de donner des discours de Torah, ou même de faire de la poésie, on lui demande de bien manger. Vezot anetia, et cette tendance, elle va naître, tidror bezaam utecholel soufot, avancera avec agressivité, et produira des tempêtes. Vehem hem, chevle mashiach. Ce sont ça les douleurs de l'enfantement du Messie. Asher yevasmu et haolam kulo, qui embaumeront le monde entier, aliédé machovehem par leur douleur. Bon, alors j'ai amené ce texte pour commencer notre étude. Parce que, ou comme la chenille ne fait que manger avant de devenir chrysalide et papillon. Ah, comme c'est joli. C'est une idée qu'on trouve d'ailleurs dans le Zohar, cette histoire de ce qu'on appelle Tolaat Yaakov, le vermisseau de Jacob. Le vermisseau de Jacob, c'est-à-dire c'est l'état auquel on arrive à un moment où on devient comme un vermisseau qui n'a rien d'autre à faire que de grandir. Mais une fois qu'il commence à se développer, et donc on a l'impression qu'il est en train de disparaître, c'est là qu'il va devenir un papillon. Un papillon qui va donner le ver à soie, c'est donc le ver à soie qui va donner de la soie, etc. Donc, bon, cette idée qu'on trouve dans le Zohar, il y a ici, donc elle est ici étayée également par l'enseignement du Rav Kook. Donc, il y a des chutes, les chutes entraînent des tempêtes, les tempêtes entraînent un retour à l'identité fondamentale d'Israël. Tout cela fait partie donc d'un processus, d'un système historique qui est nécessaire. Voilà. Donc ça, c'était, si vous voulez, une sorte de cadre général de notre étude. Et là, je voudrais rentrer un peu plus dans une idée qu'on trouve chez le Maharal de Prague, qui est ce qu'on appelle Header Kodem Lahavaya. L'absence vient avant l'être. C'est-à-dire que quand on doit passer à un stade supérieur d'existence, eh bien, il y a un moment où ce qui était habituel disparaît. C'est-à-dire, il y a des moments où toutes les habitudes qu'on avait, aussi bien au niveau culturel, au niveau des valeurs, tout cela s'efface. Alors là, ça rentre dans un problème qui est celui de l'idéologie dominante de nos jours. L'idéologie dominante, c'est, je ne sais pas si tout le monde connaît ce terme, en tout cas ce qu'il veut dire, c'est ce qu'on appelle le postmodernisme. Le postmodernisme est un des mouvements philosophiques qui ont fait beaucoup de dégâts de nos jours. C'est essentiellement véhiculé par des penseurs français, souvent d'origine juive, pas toujours, et qui ont pour postulat que la philosophie est arrivée à cette conclusion qu'il n'y a pas de vérité. S'il n'y a pas de vérité, tout est possible. Tout est possible, aussi bien au niveau moral qu'au niveau de la pensée. Mais alors qu'est-ce qu'il y a à la place des certitudes, à la place de la vérité? Il y a ce qu'on appelle des narratifs. Alors vous aurez le narratif sioniste, qui n'a pas plus de valeur, par exemple, que le narratif palestinien, le narratif libéral et le narratif dictatorial. Tout cela se vaut, ce ne sont que des approches différentes de l'esprit humain, mais il n'y a pas de vérité. Alors évidemment, quand on dit une bêtise de ce genre, il y a un problème logique. Parce que affirmer avec certitude qu'il n'y a pas de certitude est une contradiction logique. Donc, ce n'est pas au niveau philosophique qu'il faut confronter le postmodernisme, mais il faut comprendre que c'est une approche existentielle qui est aujourd'hui dominante. Et donc, quand vous venez aujourd'hui au nom d'une vérité, alors on dit, mais vous êtes fou de la vérité. Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Penser qu'il y a une vérité, cela ne tient pas la route. Et en fait, cette prise de position, à mon sens, est très importante. Parce que le postmodernisme, qui vient détruire tous les concepts, toutes les formes de pensée, toutes les représentations que nous avions de la réalité, c'est très important parce que ça permet justement de se libérer de la gangue des philosophies qui jusqu'à présent ont été dominantes et qui ont empêché les hommes d'entendre la parole de Dieu. C'est-à-dire, si on veut restaurer, ou en tout cas accéder à une civilisation réellement prophétique, il faut passer par une crise. Et cette crise, qui est représentée entre autres par le postmodernisme, vient effacer les habitudes de pensée pour créer de nouveaux cadres de pensée qui vont permettre à la prophétie de revenir. Alors, tout cela était également, ça s'inscrit dans le cadre justement de cette idée du renouvellement permanent. Alors, si David Altar a la gentillesse de bien vouloir nous amener Yisrael Utriyato, paragraphe Yud Zayin, ça sera très utile, mais même s'il ne le fait pas tout de suite, hein, moi je vais vous le lire à partir du texte de Horoth. C'est donc dans la page Lamed Dalet, dans Yisrael Utriyato, au paragraphe Yud-Zayin. Passage, à mon sens, extrêmement important de la pensée du Rav Kook, qui également ici va dans le sens de l'optimisme à partir du pire. Alors, je lis ici Kol ha-tarbut ha-zmanit gluyahi al-yesod koach ha-medame. Toute la culture actuelle est basée sur l'imagination. Vous vous rendez à quel point c'est extraordinaire, comment est-ce que David fait bien son travail? Kol ha-tarbut ha-zmanit bnouyahi al-yesod koach ha-medame. Toute la culture actuelle, toute la civilisation, pourrait-on dire actuelle, est basée sur l'imagination. Zoï, c'est-à-dire ce qu'on appelle la culture audiovisuelle. Si aujourd'hui vous voulez gagner les élections, il est plus important de savoir comment est-ce que vous passez à la télévision que de savoir si ce que vous dites est intelligent. Zoï moreshet gorala ma'elili shelame ha-tarbut ha-achuzim ba-koach ha-medame. C'est l'héritage païen des peuples civilisés qui sont attachés à l'imagination. Ce qui entraîne l'évolution de la beauté corporelle en acte et en représentation factuelle. La force d'imagination va en se développant, ce qui entraîne en même temps un développement des sciences pratiques et, serait joli ça, aujourd'hui c'est plutôt la culture de l'audiovisuel. Oui, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, l'audiovisuel donne plus d'importance à l'apparence qu'à l'essence. Et donc les sciences pratiques et expérimentales se développent. Et plus la force d'imagination et son introduction dans la vie se renforce, c'est là que disparaît la lumière intellectuelle. Parce que le monde entier pense que tout le bonheur dépend uniquement du développement de l'imagination. Je me rappelle qu'il y a quelques années, il y avait une dame de plus de 100 ans qui avait gagné à la loterie en France. Alors on lui a demandé, mais qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent, madame? Elle a dit, ben, je vais m'acheter un nouveau téléviseur. Et les choses vont graduellement. Hachesridei, c'est une erreur de frappe. Hachesridei, Aserhel, Shibiroach, Achokma, Acholonit. Gamem, Molchim, Venetakim, Melkoach, Amedame. De sorte que ce qui reste, les résidus de l'intelligence qui sont dans la sagesse laïque, vont et se déplacent en direction de l'imagination. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire depuis la crise kantienne, depuis que Emmanuel Kant est arrivé à la conclusion qu'on ne peut rien savoir, c'est alors que la philosophie est devenue existentielle. C'est-à-dire, vous avez des mouvements comme Kierkegaard, comme Schopenhauer, puis après Heidegger, Husserl, puis après vous avez Sartre, et puis le structuralisme et le déconstructionnisme, etc. C'est tous ces mouvements de pensée qui n'ont plus la prétention de définir les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'elles sont ressenties. Amelitzim va Mesaprim. Les poètes, les auteurs, Adramaturim, les dramaturges, et tous ceux qui s'occupent des beaux-arts, sont à la tête de la culture. La philosophia, par contre, la philosophie, posahat, boite, vetzolaat, trébuche, ve'en la ma'amad, n'a plus de base. Parce que l'intelligence pure, c'est-à-dire, c'est une manière de traduire ce que dit le terme de raison pure chez Kant, la critique de la raison pure, Oler ou Mistalek va en disparaissant. Et donc, c'est-à-dire que depuis que les philosophes ont désespéré d'arriver à une vérité, à la preuve de l'existence de Dieu, la preuve des valeurs morales, alors le monde entier se tourne vers ce qui est ressenti, vers les images. Et alors, ce que ça entraîne également une décadence morale. Plus s'en va l'intelligence et l'esprit de sagesse, c'est alors que l'effronterie gagne et que la sagesse des sages est considérée comme entraîne le dégoût. C'est alors qu'on méprise ceux qui sont craignants le péché. La vérité disparaît. Et le visage de la génération est comme le visage d'un chien. C'est une expression tirée évidemment du Talmud. Tout ce qu'on vient de voir, c'est dans le Talmud. Ça décrit la génération qui commence le temps messianique. C'est quoi être comme avoir le visage du chien? Une des interprétations, c'est que quand on frappe le chien mord le bâton au lieu de mordre celui qui tient le bâton. C'est-à-dire, il a la vue courte. Toute cette délicatesse intérieure que donne l'esprit de sagesse, disparaît. C'est-à-dire, vous avez le visage de la génération est un visage superficiel, grossier. L'aspiration à la spiritualité, à la noblesse, à l'adhésion à Dieu, la olam ha'elyon, au monde suprême, les zoh ha'moussar berum ta'orato, la pureté de la morale dans son élévation. Les tsiyuré muskalot, les représentations des intelligibles en tant que tels et leur éternité, naaset chazon yakar, tout cela devient un phénomène rare. C'est-à-dire, il n'y a plus tellement de préoccupation des choses spirituelles. D'ailleurs, vous avez qu'à voir à l'université, les sections qui s'occupent de philosophie sont pratiquement délaissées. Et de la même mesure où ce phénomène se produit dans le monde entier, Noeg Adavar b'Israël, cela apparaît également dans le peuple d'Israël, Klapiroch HaKodesh v'Avat Torah, envers l'esprit de sainteté, l'amour de la Torah, Biroach Pnimi, dans un esprit intérieur, Vera Ananut Atzmit chez la Yadut HaNe'emana, et la fraîcheur intrinsèque du judaïsme fidèle. Cholet, et dans le monde entier règne un esprit matériel. Ilach, c'est un verset de Michelet. Malheur à toi, pays où ton roi est un jeune homme, Vesarayr, et tes ministres, tes princes, mangent le matin. Alors bon, tout cela, c'est assez pessimiste, et si vous voulez, on peut trouver ça dans toute la littérature négative qui dira que tout va mal. Jusque-là, le Rav Kook est fidèle donc au blâme que l'on proclame contre la culture actuelle. Maintenant, c'est là que tout va se renverser. Omnam kolze hu yesod etza mirachok. Mais en vérité, tout cela est basé sur un projet qui voit loin. Atzat Hashem, c'est le projet de Dieu. Hi, lehashlim et koach hamedameh, de parachever la puissance de l'imagination. Mipne, pourquoi c'est tellement important? Shu basis bari la ruach ha'elyon shehofia alav. Parce que c'est une base saine pour qui permettra à l'Esprit suprême de se manifester, c'est-à-dire la prophétie. Étant donné l'élévation de la conception spirituelle d'Israël, il a été nécessaire à un moment que la force d'imagination s'amoindrisse. Ce qui a entraîné une faiblesse dans la présence de l'Esprit Saint. Chez Atid la voix l'idée Malka Meshicha qui doit revenir par l'intermédiaire du roi Messie. Alken mitbases ka et roi Hamedame. C'est pour ça que actuellement l'esprit de l'imagination se renforce, s'établit. Achigamer b'chol tivuro jusqu'à ce qu'il soit totalement parachevé. Ve'az yeh kiseh nachon v'shalem le roi Hashem ha'elyon. C'est alors qu'il servira de support bien établi et parfait pour l'esprit divin suprême, veyurchar les kabel au roi hakodesh alav, et il sera adapté, il sera apte à recevoir la lumière de l'esprit saint. Chez roi Hashem, qui est l'esprit de Dieu. Et là, nous avons ici un verset qui parle du Mashiach, roi chokhma ubina, un esprit de sagesse et d'intelligence et d'entendement, roi etza ugvura, un esprit de pratique et de vaillance, Ruach da'at yirat Hashem, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, à nouveau, vous avez ici une deuxième manière de voir les crises. C'est-à-dire, la première manière, on l'a vu, c'était que il est nécessaire de s'enfoncer, de s'établir dans le matériel, ce qui va entraîner une révolte contre la religion. Très bien, dit le Rav Kook, ne vous en faites pas, viendra une tempête qui va bouleverser tout ça. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et puis à part ça, dit le Rav Kook, il est nécessaire également de détruire ce qui jusqu'à présent était dans l'habitude. C'est les habitudes de pensée. Parce que il faut laisser la place à un nouvel entendement, le retour des prophètes. Donc pour l'instant, le Rav Kook nous rassure. Nous sommes calmés dans nos inquiétudes. Nous savons qu'il y a ici un processus de renouvellement, qui est le principe, je reprends ici l'idée du Maharal de Prague, et Eader Kodem la Havaya. L'absence, la disparition du précédent est une introduction au nouvel être. Maintenant, on peut se dire, dans ce cas-là, bon, alors c'est un mauvais moment à passer, le Rav Cherki nous a calmés, il nous dit, bon, vous en faites pas, après, il y aura une teshuva. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Il faut savoir voir dans les événements spirituels actuels et les événements moraux actuels, les racines du nouvel être qui est en train de se former. Il faut être attentif au phénomène pour se préparer justement à cette transformation de l'être. Or, cette transformation de l'être est d'une certaine manière dépendante également de ce qui se passe dans la communauté internationale tout entière. Il y a aujourd'hui un bouleversement des habitudes de pensée. Il y a un bouleversement des alliances également, qui fait que le monde peut devenir apte à écouter la parole d'Israël. Et donc, nous faisons partie de tout un déroulement, tout un développement des rouages de l'histoire, qui parfois nous dépasse, mais nous devons savoir que cela a un sens. À ce propos, je voudrais vous citer, vous rappeler un verset de Tehilim qui dit Tikatev Zot le Dor Aharon, cela sera écrit pour la dernière génération. Ve'am Nivra Yehalelia, un peuple créé fera la louange de Dieu. Demain, par exemple, un autre verset, Yavo Viagidu Tzidkato, vous allez un jour comprendre la justice, donc du jugement de Dieu, Le'am Nolad Ki'asa, pour un peuple qui vient de naître à nouveau. Et donc, nous sommes en train de naître. Maintenant, on peut dire que c'est une sorte d'idée permanente qui est qu'il y a dans l'histoire un renouvellement. Alors là, je voudrais rentrer dans un cadre peut-être plus abstrait. Pour l'instant, nous avons été très pratiques, mais maintenant, je veux rentrer dans le plus abstrait. Vous savez qu'il y a deux manières d'aborder le temps. Il y a, d'ailleurs, ça, c'est un rapport avec le fait que nous avons deux grands jours de l'an. Dans le calendrier hébraïque, nous avons une année qui commence le premier du mois de Nissan, et vous avez une année qui commence le premier du mois de Tishri, à 6 mois de distance. Est-ce que la philosophie va tomber en désuétude pour refaire place à la prophétie? Eh bien, c'est exactement ce que nous avons essayé d'expliquer. Je suis heureux de voir que j'ai été bien compris. Une seconde. Oui, c'est ça. Très bien. Et donc, maintenant, je voudrais essayer de comprendre comment comprendre le temps de manière générale. Il y avait un Français du nom de Paul Valéry, dont vous avez certainement entendu parler, qui a dit, les civilisations se savent mortelles. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a une sorte de pessimisme permanent. On voit qu'il y a des grandes civilisations qui se développent, mais après quelques milliers d'années, les civilisations en question disparaissent. Et alors on peut se demander à quoi bon? Quels sont les philosophes postmodernes qui sévissent actuellement? Oh ben, il y en a pas mal. Disons que actuellement, il y en a un peu moins, parce que la plupart ont déjà disparu de la circulation, mais ceux qui ont une influence quand même, c'est Foucault, Sartre même encore, son influence, Habermas, Derrida. Et tant d'autres. Maintenant, pour revenir à notre sujet, il y a donc une approche de l'histoire qui est pessimiste. Le monde imaginal est différent de l'imagination. Comment l'appréhender pour révéler la prophétie? Ouh là là. Disons comme ça, il y a un verset qui dit que viendra un temps où le monde partira à la recherche de la parole de Dieu. Yeshotetu limtso et devar Hashem. Mais après, il y a deux mots. Velo imtsaou, ils ne le trouveront pas. C'est-à-dire qu'il y aura des crises également là-dedans. C'est-à-dire, souvent, il y a aujourd'hui une soif de spiritualité qui entraîne des phénomènes mystiques, et les phénomènes mystiques entraînent également des erreurs. Mais après les erreurs, c'est là que ça peut renaître. Il faut savoir développer une certaine passivité dans la plus précisément une réceptivité à la parole. Quand on est réceptif, c'est là que la parole peut se manifester. Quand on n'est pas réceptif, s'il y a un écran, alors on ne peut pas recevoir. Maintenant, vous me permettez, je vais continuer. Donc cette idée, dès que la civilisation va en décadence, les civilisations, comme on dit, se savent mortelles. Et ça explique d'ailleurs ce verset dans le livre de Tehilim à propos du peuple d'Israël. Velo amru ha'ovrim birkat Hashem alechem. Les passants ne t'ont pas dit bonjour. À qui ils n'ont pas dit bonjour? À Israël. Qui sont les passants? Alors les Chachamim nous disent, ce sont les nations. Pourquoi elles sont appelées les passants? Parce qu'elles passent du monde. Et ça, c'est, si vous voulez, c'est représenté par une année automnale. L'année de Tishri commence en automne. Or, l'automne, c'est le temps de la disparition de la vie. Et donc, on peut comprendre pourquoi est-ce que les nations, dit la Guémara, comptent à partir de Tishri leur année. Rappelez-vous une chose intéressante, c'est que lors du calendrier révolutionnaire en France, l'année commençait le 21 septembre, c'est-à-dire exactement au moment où les jours se raccourcissent, où l'obscurité envahit le monde. C'est une vision, disons, un peu panthéiste, naturaliste du monde. Par contre, il y a, et d'ailleurs l'année dans ce cadre-là s'appelle Shana. Shana veut dire le changement, shoné. Or, le changement est destructeur, il nous assassine. Ce n'est pas nous qui tuons le temps, c'est le temps qui nous tue. Ça, c'est la vision pessimiste. Il y a d'autre part la vision d'Israël. La vision d'Israël, elle, au contraire, est optimiste. Pourquoi? Parce que nous, les enfants d'Israël, nous savons que nous sommes éternels. D'ailleurs, le président argentin l'a dit il y a quelques jours, le peuple d'Israël est invincible. Et donc, il y a l'approche envers le temps, c'est un renouvellement permanent. C'est-à-dire, nous avons une accumulation d'expériences qui fait que nous passons d'une expérience à une autre qui ne fait que nous enrichir. En hébreu, chidouche, achodesh hazeh lachem, ce renouvellement est pour vous, dit la Torah à propos du mois de Nissan, c'est le temps du printemps. Au moment du printemps, il y a un renouvellement de la nature, et ce renouvellement de la nature, c'est ça la vision d'Israël. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que nous fêtons quand même Rosh Hashanah, au mois du Tishrei? C'est parce que nous faisons la conjugaison entre le temps des nations et le temps d'Israël. Grâce à Israël, il y a une rédemption de l'ensemble de l'histoire, également de l'histoire des nations. Ce qui fait que l'année, en fait, ne fait toujours que commencer et ne finit jamais. Parce que vous commencez l'année à un moment donné, vous avez 6 mois qui sont la moitié de l'année. Les derniers 6 mois sont le temps où l'année est en train de finir. Or, ce qui se passe dans le calendrier hébraïque, c'est que l'année ne finit jamais. C'est-à-dire, vous avez l'année qui commence en Tishri, et au moment où elle va bientôt finir, c'est là que commence Nissan. Et donc, l'année ne fait que évoluer, et donc, le temps d'Israël est une sorte de rédemption du temps des nations. Et donc, c'est pour ça que nous sommes l'espoir du monde. Le Rav Kook disait, Yitziat Israël mi-Mitzrayim kisher la'ad aviv shel ha'olam kulo. La sortie d'Israël d'Égypte restera à tout jamais le printemps du monde entier. C'est-à-dire ce printemps de liberté que nous amenons au monde. Et donc, c'est une faculté, on pourrait dire, permanente du peuple juif qui ne cesse de renaître de ses cendres. Évidemment, on en a marre d'être des cendres. On voudrait plutôt en finir. Mais, même quand nous avons des crises, nous savons que cela fait partie d'un processus d'ascension permanent. Et effectivement, il est surprenant de voir qu'en Israël, il y a un phénomène de démographie ascendante qui est tout à fait étranger à ce qui se passe dans l'ensemble du monde occidental. Alors qu'il y a aujourd'hui une chute démographique dans tous les pays du monde occidental, Israël est le peuple, le pays dans lequel il y a une ascension permanente, ce qui veut dire que les Israéliens, intuitivement, ont le sentiment que la vie vaut la peine d'être vécue. Et puis également, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu récemment des rapatriements d'Israéliens pendant la guerre. Et on n'a jamais vu un pays en guerre où rescaper les citoyens signifie les ramener au lieu où se fait la guerre. C'est-à-dire que même là, nous sommes en plein conflit, nous avons des alertes, nous avons des victimes, hélas. Eh bien, l'Israélien moyen, pour en dire, l'Israélien typique, pense que ça vaut la peine de revenir dans son pays. Ce qui prouve que ça marche. Il y a, en fait, bon, là je voudrais expliquer ce que je viens de dire sur deux manières d'aborder le temps, de comprendre également qu'est-ce qu'il en est du monde dans son ensemble. Vous avez deux approches possibles. Vous avez une approche développée par certains philosophes, en particulier Henri Bergson et également Spencer, qui est que le monde est en évolution permanente vers la vie. Ce qu'on appelle chez Bergson l'élan vital. D'où lui vient cette idée? Par exemple, quand on voit la théorie de l'évolution darwinienne, on voit qu'à partir du chaotique, le monde est en train de se former. C'est-à-dire, à partir du chaos, se forme finalement la vie terrestre qui commence par le végétal, puis après par l'animal, qui arrive finalement à l'humain. Et cette idée, et l'idée donc de Bergson, c'est que le monde est porté par une sorte d'élan vital qui est tellement fort qu'il qu'un jour il entraînera la victoire même contre la mort. La mort sera un jour vaincue, nous dit Bergson. Bon, cette idée est très belle, c'est une idée donc que le monde est en évolution permanente vers le haut. Mais il y a également une autre opinion qui est exactement le contraire, qui est basée entre autres sur les lois de la physique, la thermodynamique, qui nous apprend qu'il y a une entropie permanente et que le monde va du construit au déconstruit. C'est-à-dire, il faut plus investir plus d'énergie pour construire un mur que pour détruire un mur. Ce qui veut donc dire que par la force des choses, à très très longue échéance, le monde va en disparaissant. Donc vous avez deux conceptions qui s'affrontent l'une contre l'autre, l'une qui parle d'une ascension permanente, c'est l'année nissanienne, et puis vous avez l'idée anthropique qui est que le monde, c'est un monde de Tichri, c'est un monde en décadence permanente. Qu'est-ce qu'en pense la Torah? Eh bien, à ce propos, vous avez tout d'abord un texte du Maharal de Prague dans le Netzach Israël. Il dit que ceux qui ont raison sont ceux qui disent que le monde est en chute permanente. C'est pour ça que vous avez le verset Somer Hashem l'chol anoflim. Dieu retient tous ceux qui tombent. Et le Maharal dit, mais qui sont ceux qui tombent? Eh bien, il dit, ce sont tous. Tout tombe. Parce que tout tire sa vitalité du Créateur, et de par soi-même, la réalité du monde est une chute permanente. Mais en permanence, Dieu fait remonter le monde. Mais si je vais plus loin, en fait, c'est une controverse entre deux grands maîtres de la Mishnah, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, à propos d'un verset d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, il est dit que le prophète voit des ossements ressuscités. C'est la vision des ossements desséchés. Et c'est quoi ces ossements desséchés? Dieu dit au prophète, ce que tu viens de voir, c'est l'assemblée d'Israël. L'assemblée d'Israël qui est découragée. Ils disent, Hinné yavshu atzmotenu, voici que nos ossements sont desséchés. Avdatikvatenu, notre espoir a disparu. Nixarnulanu, c'en est fait de nous. Et Dieu dit au prophète, va dire aux enfants d'Israël qu'ils ne sont pas des ossements desséchés, qu'ils vont renaître. D'accord? Ça fait écho au texte de la Tikva, notre hymne national, qui dit, Odlo avdatikvatenu, notre espoir n'a pas encore disparu. Et le prophète voit les ossements se dresser comme une grande armée. Haïl gadol meod meod. Et alors la Guémara nous dit, qu'est-ce qu'ils ont fait les ossements qui venaient de renaître? Eh bien, ils se sont levés sur leurs pieds, ils ont récité un cantique et ils sont morts à nouveau. C'est-à-dire dans la vision d'Ézéchiel, il a vu un moment de résurrection. Et dans ce moment de résurrection, les morts ont chanté un cantique. Mais quel était le cantique en question? Demande la Guémara. Alors, Rabbi Eliezer nous dit, ben, ils ont chanté Hachem Memit Bedin, non pardon, Hachem Memit Betzedek Umchaye Berachamim. C'est avec justice que Dieu met à mort, et c'est par sa miséricorde qu'il ressuscite. Alors ça veut dire quoi selon Rabbi Eliezer? Qu'il est naturel, il est normal de mourir. Mais c'est une grâce de Dieu de nous faire ressusciter. C'est un peu comme le Maharal de Prague. C'est cette idée donc de l'entropie. C'est le monde va vers sa disparition, mais Dieu intervient et il nous fait ressusciter. C'est un peu comme si vous voulez le sacrifice d'Itsraac. Il est présenté sur l'autel, il devrait être abattu, mais Dieu dit non, non, ne le fais pas. Il faut que Itsraac vive. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Tandis que pour Rabbi Yehoshua, il dit que le cantique qu'ils ont récité, c'est Hashem memit umchaye morid sheol vayaal. Dieu met à mort et fait ressusciter, il fait descendre dans la fosse, mais il fait remonter. Ça veut dire que pour Rabbi Yehoshua, la mort n'est pas naturelle. La chute n'est pas le plan idéal. En vérité, c'est pour Rabbi Yehoshua, c'est l'ascension qui est naturelle. Imaginez, je vous donne une petite image, prenez un ballon que vous gonflez et que vous faites introduire, vous introduisez dans la piscine. Les enfants adorent faire ça. Prenez un ballon, vous le mettez dans la piscine, vous l'enfoncez dans l'eau, et si vous le relâchez, il remonte tout de suite. C'est-à-dire surnager à la surface, c'est ça qui est naturel, et c'est la disparition qui n'est pas naturelle. Donc Rabbi Joshua, lui, va dans le sens que il est naturel au peuple d'Israël, et à travers le peuple d'Israël, au monde entier, de surnager et de revenir à la vie. Donc on peut dire, quand nous voyons que ça va mal, c'est que ça va aller bien, très bientôt. Il y a également un phénomène supplémentaire qui se greffe sur tout ce qu'on vient de dire. Vous connaissez cette idée reprise par le Rav Kook dans Oroth, à la page Ayin Bet, comme quoi, c'est au chapitre Yudret de Oroth Atria, comme quoi il y a trois secteurs, pour dire trois parties dans la nation d'Israël qui ont trois préoccupations différentes. Kodesh Uma Adam, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des choses saintes, les religieux, ceux qui s'occupent des choses nationales, on peut dire la droite, et ceux qui s'occupent du cosmopolite, de l'universel, on peut dire la gauche. Or, ce que dit le Rav Kook, c'est qu'on ne peut pas envisager une santé du peuple s'il n'y a pas une conjonction de ces trois forces. C'est-à-dire, tant que il y a des frontières qui séparent le peuple n'est pas dans son équilibre. Alors, ça voudrait dire qu'au niveau politique, il faudrait une coalition qui mette ensemble tous les partis de la Knesset. Bon, essayez. Mais ça veut dire qu'en fait, dans chaque secteur de l'opinion, il y a une valeur qui est défendue, de manière parfois paroxystique, au détriment des autres valeurs. Par exemple, quand on voit aujourd'hui l'extrême gauche israélienne qui tombe dans les excès parfois de haine de soi, il faut comprendre que ça ne vient pas forcément d'un mauvais penchant. Ça peut être également une préoccupation pour des choses qui leur sont importantes, entre autres la liberté, entre autres la dignité de la personne humaine. Alors évidemment, quand on insiste exclusivement sur une valeur, alors on arrive à des caricatures. La caricature de ce qu'on appelle la valeur de la personne humaine, quod adam vechirouto, la dignité humaine et la liberté. Alors, c'est exploité aujourd'hui par des institutions décadentes comme la Cour suprême pour remettre en question toute autre valeur. Mais il faut comprendre que le point de départ de cette approche a quelque chose de valable. De même, évidemment, les valeurs nationales d'Israël, les valeurs de sainteté, et que ce qu'on appelle le Kodesh HaElyon, la sainteté suprême, ne se manifeste qu'à travers la conjonction des trois forces. Maintenant, comment est-ce que cela se fait? Alors là, je vais être très rapide. Je vais rappeler une idée que j'ai souvent développée dans nos cours, donc vous allez dire que je me répète, mais c'est normal. Il y a trois identités du peuple d'Israël. Yaakov, Israël, Yeshurun. Yaakov représente Israël en tant que religion, tandis que Israël représente le peuple en tant que nation. Et Yeshurun en tant qu'universel. Or, ce qui se passe, c'est que dans l'histoire de l'État d'Israël, il y a eu des déplacements des coalitions. Au début, lors de la fondation de l'État d'Israël, c'est l'identité Israël qui l'a emporté sur Jacob. C'est-à-dire, le national a vaincu le religieux. Mais, à partir de la guerre des six jours, à partir du moment où l'armée d'Israël, une armée laïque, a réussi la conquête du mont du Temple, le lieu le plus saint d'Israël, c'est alors qu'a commencé à prendre de l'importance ce public qu'on appelle les Mitnachalim, les colons, qui ont développé l'idéal d'Ati Léoumi, religieux national. Et c'est arrivé à un point où finalement la coalition politique, pour prendre cette image, a pris le visage exclusif du national religieux. C'est ce qu'on appelle en jargon israélien Yamin al-Malé-Malé, c'est-à-dire une droite totalement à droite. Et alors, ce que ça a créé une nouvelle frontière, la nouvelle frontière entre la droite et la gauche. Et de même que la réconciliation entre le national et le religieux s'est faite à travers la guerre des six jours, de même la réconciliation entre le national religieux, entre Yaakov Israël et Yeshurun la gauche, se fait à travers le conflit actuel que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que ce qui est en train de s'éclaircir, c'est cette idée que il y a un message universel qui est porté par le nationalisme sioniste d'Israël. Et donc, en fait, la droite et la gauche sont en train de se retrouver. Ça prend du temps. Il y a à ce propos un verset amené par la Guémara à la fin du premier chapitre de Bérachot, à propos du passage de l'exil à l'indépendance nationale. Alors, le verset, c'est Iné amim baim leum Hashem, voici que des jours viennent, parole de l'Éternel, Velo yomru od chai Hashem, asher elai ben Israël, ben Israël, on ne jurera plus au nom du Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte. Kim chai Hashem, asher elai, asher rivi, zera bet Israël, mais retsafonam, kol haratzot asher dartim sham, mais on jurera au nom du Dieu qui a ramené la maison d'Israël du pays du Nord et de tous les pays du monde. Et la Guémara nous dit, ça veut dire que la sortie d'Égypte sera oubliée. Ça veut dire qu'elle sera reléguée à l'arrière-plan. Et ce qui sera important, ce qui remplira la conscience des enfants d'Israël, c'est la fierté d'avoir retrouvé l'État d'Israël, c'est-à-dire l'indépendance politique. Et donc vient un temps où ce qui est important, c'est la fidélité à l'État d'Israël, c'est ce que nous vivons actuellement, et tandis que le religieux est mis un peu de côté. Alors évidemment, ceux qui n'adhèrent pas diront qu'ils ont honte de l'État d'Israël, comme ça, par exemple certains intellectuels juifs de France qui disent avoir honte d'Israël. Ils sont en dehors de l'histoire, ils sont dans les bas-côtés de l'histoire, ils ont oublié où est-ce que nous sommes. Mais la Guémara, une fois qu'elle a dit ça, nous amène un deuxième verset. Et ça, je pense qu'il est important d'y faire attention. C'est un verset d'Isaïe, de Yeshayahu, qui dit Altis gerou rishonot, vekadmoniot altit bonanu, ineni ose hadasha atatitzmar. Ne vous rappelez pas des jours passés, ni des jours de l'Antiquité, car je fais quelque chose de nouveau qui est en train de croître. Alors, la Guémara dit, c'est quoi les choses du passé? C'est l'indépendance nationale, chez Abou de Malkhouyot. Vekadmoniot atit bonanu, les choses de l'Antiquité ne les observez pas, il s'agit de la sortie d'Égypte, dit la Guémara. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de croître, ce qui veut dire que d'après la Guémara, il y a un événement qui sera tellement important qu'il prendra place dans la conscience d'Israël plus que l'État d'Israël et la sortie d'Égypte ensemble. C'est quoi cet événement? Tané Rav Yosef, Rav Yosef enseignait Zo milchemet Gog ou Magog, s'il s'agit de la guerre de Gog et Magog. C'est quoi la guerre de Gog et Magog? C'est l'affrontement entre l'ensemble de la communauté internationale et le peuple d'Israël. Et à partir de là, c'est là que va se manifester, si on reprend le verset d'Ézéchiel qui en parle, c'est là que le nom de Dieu sera connu auprès de nombreuses nations. Je pense qu'il est tout à fait symptomatique de voir qu'un président de république, parmi les nations, je parle ici du président d'Argentine, Javier Milei, qui aujourd'hui n'hésite pas à proclamer haut et clair que c'est Israël qui est la source de la bénédiction pour le monde entier. Et donc, c'est un phénomène, disons, symptomatique, parce qu'à mon avis, ça ira de plus en plus parmi de nombreuses nations, et nous pouvons voir des signes de cette transformation également chez le président américain, chez le président de l'Union indienne, et sait-on jamais, peut-être que ça arrivera également dans d'autres nations qui vont nous surprendre. Rappelons aussi, les nations ne respectent pas le décalogue et certains médias US et européens augmentent la... Attendez, attendez, attendez. augmente la confusion en citant tel quel le Hamas ou l'Iran et la guerre Gog ou Magog semble un passage très dangereux pour nous tous. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que nous n'avons pas déjà l'expérience de ces dangers? Nous l'avons. Alors, vous savez, dans le Hallel, nous disons Lolanu Hashem Lolanu. Ce n'est pas pour nous que nous t'invoquons, qu'il est Shimcha Ten Kavod, parce que c'est à ton nom que tu dois donner la gloire. Lama Yomru Agoyim Ayena Elohim. Pourquoi est-ce que les nations diraient où est leur Dieu? C'est-à-dire que, en fait, et ça, et ce verset est dit à propos de la guerre de Gog et Magog. C'est-à-dire, c'est vrai que le passage est dangereux, mais c'est comme une naissance. Dans la naissance, au moment où l'enfant est en train de sortir de la matrice pour arriver à l'air libre, c'est le moment dangereux. C'est pour ça qu'il faut, à ce moment-là, toutes les précautions. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner naissance. Au contraire, nous sommes en train de vivre ça. Un dernier point très important, nous avons parfois le sentiment que Israël est un peuple comme les autres, une nation comme les autres, parce elle use de la force. Mais c'est là que la Torah nous dit, Ve'amarta kochi ve'otzem tu diras, c'est ma force et la puissance de mon bras qui m'a fait cette réussite. Et c'est-à-dire que quand nous avons une fidélité à l'armée d'Israël, à nos soldats, nous le faisons non pas par esprit chauvin, mais parce que nous savons que c'est le Créateur qui agit à travers nos efforts. Et en cela, c'est pour ça que nous récitons le Hallel à Yom HaAtzmaout, pour être reconnaissant à Dieu de tout ce qu'il nous fait à travers nos efforts. Voilà, chers amis, je pense que nous avons fait un tour d'horizon sur différentes idées qui alimentent ce principe du renouvellement permanent du peuple d'Israël. Je pense que c'était peut-être un peu ardu, mais comme David a quelque chose à nous dire, vas-y.
Ah, on se retrouve mardi soir au Cotel.
Mais bien sûr, mardi soir au Kotel, attendez, à 7h moins le quart, Mincha, important de venir assez tôt parce que l'accès à la vieille ville n'est pas évident. Et nous avons, comme chaque année, plusieurs milliers de personnes qui disent le Hallel ensemble. C'est vraiment un événement hors du commun. On se retrouve tous ensemble très bientôt.
Alors, on va demander est-ce qu'il y a un lien Zoom pour ceux qui ne sont pas à Jérusalem ou ceux qui sont en France?
Je n'en sais rien. Il faut demander, renseigne-toi chez Moshe Assouline de notre communauté. D'accord? Et tu diffuseras la chose.
Génial, merci beaucoup Arav.
Shalom, shalom.
Khodesh Tov et bonne journée.
Au revoir.
Toda Anak, Anak.
Toda
Merci.
Rabba.
Merci beaucoup.